patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand.
Alors on vous retrouve encore aujourd'hui pour évoquer les lectures de textes de Gilles Ladd.
Oui, ce sera la dernière.
Exactement, hein, tout à fait.
La dernière, alors nous allons achever ce joli récit empreint de poésie et rédigé par Gilles Ladd.
Alors nous en étions où la semaine dernière ?
Alors nous en étions à la construction, à la restauration, hein, à main d'homme évidemment, de la bergerie. Le toit est posé, l'enclos est réalisé, et voilà, nous voyons que notre cher Cambriel s'installe de plus en plus. Alors il est content de son travail. Je reprends la lecture. La pluie pouvait venir. Elle mettrait du temps à enfoncer la terre, à dégager de nouvelles pierres, à laver les moellons rouges, à déséquilibrer avec l'aide du gel certains coins de murailles. Pour l'instant, il lui suffisait de contempler le résultat de cet étrange combat. Cela témoignait à son cœur, encore inapaisé, beaucoup de sérénité tout de même, ainsi que la brûlure persistante de ses mains, mains de travailleur, solitaire. Le ciel dégagé, dense, rassurant, envoyait un vent frais, comme par un col de haute montagne. C'est dans ces moments-là qu'on l'interpellait. « Pourquoi vous vous donnez tant de mal pour les autres ?»« Les autres ou lui, tel ou tel champ, il n'y voyait pas de différence. C'est le travail proposé qui gouvernait. Il improvisait une manière, un biais, en vue d'une harmonie qui tiendrait compte de la nécessité des lieux, des coutumes et de son entrain à les recréer. Après ces journées terribles, il regagnait l'enclos dans une paix qui le surprenait. Son corps se dénouait, son pas s'allongeait, il redevenait arpenteur, tiré des épaules et des reins sur le sentier. Il franchissait la claie, prenait la tête du troupeau, remontait vers la bergerie. Chemin faisant, les bêtes le dépassaient toujours un peu, le laissaient troublé derrière, devenu ce berger, pris jusqu'aux cuisses dans la masse mouvante et douce des moutons. Peu avant la maison, il se retournait face au bois du versant sud, diversement éclairé vers Naudou, vers Pradier, vers Coursac. Dans la trame foncée des chênes, brillait encore plus loin une falaise blanche de la vallée du Célé. Un ou deux corbeaux regagnaient leur aire en plongeons successifs. L'air en bruissait distinctement. Un frisson lui prenait tout le corps, émotion et fatigue mêlées. La solitude était vraiment cette obscurité familière toute de mystère, forte d'odeur et de vive fraîcheur. Tout près de la bergerie, les moutons le poussaient, le soulevaient, le chien s'alarmait, le songe se dissipait. Il fallait apaiser les bêtes avant de retrouver le seuil et le logis. Une fois chaussés les sabots, dont les claires exclamations était toute une compagnie. On les entend sonner, ces sabots. Demain, il repartirait vers les villages ouverts, comme Fontane, Espédaillac, disposés largement sur une pente légère, parsemée de marronniers et de tilleuls, ou vers des villages plus secrets, comme Quissac, déployés dans une vaste dépression qui fait clairière au centre de ce qu'on peut appeler la Grande Brogne. Ou Cagnac, appuyé à son église romane, et que l'on découvre brusquement dans un versant de genévriers et d'âpres pâturages. Cambriel assistait à la messe dans toutes ces églises-là, il choisissait sa destination en fonction des circonstances et des saisons. Il aimait aller à Fontane au printemps, en souvenir d'une promenade le long des jardins et d'arbres fleuris, un peu après Pâques. Il préférait Espédaillac en automne, pour découvrir les érables écarlates, très nombreux dans cette direction. Il admirait la patience des prêtres, leur ponctualité dans la neige et les canicules, leur rhétorique, leur façon d'aborder l'Évangile par des biais toujours nouveaux, de bâtir une histoire, une morale sur quelques lignes, de manier l'émotion avec prudence, comme une source rare. Il vénérait la parole qu'il avait si malaisée et si intérieure. Sur le chemin du retour, il improvisait de nouveaux développements, s'étonnait d'éloquence contenue. Il connaissait assez mal l'Évangile, confondait un peu Luc, Matthieu, Marc et Jean. Mais à force d'années, de semaines surtout, le long de ce si profond et si humble temps ordinaire, il reconnaissait, faisait sienne quelques scènes. La vie de Saint Jean le Baptiste, Jésus au temple, marchant sur les flots, les paraboles du fils prodigue, du semeur. Il imaginait Jésus toujours près du désert, parfois seul, le plus souvent escorté, et tous si attentifs. Lorsque le printemps était bien là, il ouvrait l'enclos et amenait ses moutons pour une longue marche, mi-errance, mi-exploration. Au lendemain des belles pluies d'avril, quand l'air est animé, tonique, couleur de jeunes feuilles, une fleur splendide s'ouvre, l'asphodèle, grand lys qui enferme longtemps son blanc très pur dans des sortes de coques. Elle libère bientôt une grappe de fleurs au sommet d'une longue hampe luisante. Cette dernière, une fois séchée, était ramassée, jadis, sous forme de bâton léger pour transmettre le feu de la cheminée à la lampe à pétrole ou alors aux bougies. Ces alfodèles, isolées ou en petits groupes, signalaient par leurs pieds touffus qu'Ampriel les longeait avec respect, comme l'indice de la survivance, un peu surnaturelle, du temps où les arbres et les plantes, indemnes de tout préjudice animal ou humain, brillaient d'une lumière intense, intemporelle. Il n'oubliait pas que les asphodèles fleurissaient au temps mythique, fleurissaient en Judée. Ailleurs, surgissaient par centaines et en rond les narcisses, peut-être la véritable image du printemps, de l'espoir venu de partout en une seule nuit. Leur parfum se promenait, s'imposait, puis se diluait. Campriel en cueillait un et cheminait, le portant de temps à autre à ses narines. Ces parterres de narcisses, qui choisissaient souvent pour éclore des buissons impraticables, l'amenaient à penser que l'activité du beau, avec un B majuscule, est secrète. Choisit volontiers le clair-obscur, surprend et dépayse, surtout lorsque l'humidité fait ressembler certains sous-bois de la Brogne à des bords de marais. Il ne connaissait guère le nom des autres fleurs, au printemps des espèces blanches ou mauves, dotées d'une courte tige, se présentaient sous la forme d'un bouquet d'alvéoles, certaines variétés recelant des filaments rouges. Il n'est pas sûr que le nom d'orchidée aurait ajouté à son bonheur. Menant ses moutons, Cambriel improvisait à travers les branches et chaos. Il fallait souvent contourner les effondrements de plusieurs mètres, encombrés de blocs moussus, contre lesquels s'appuyaient les troncs dans l'effervescence des ronces et des arbustes. Il s'était vite repéré dans la forêt. Appliquant le principe selon lequel c'est l'horizon qui renseigne et guide. Il connaissait les collines environnantes comme des visages, les ondulations du Ségala, des hauts de Figeac aux pendites dominant Saint-Céré, le pêche de Ligoussou au sud-est, et jusqu'aux encoches anonymes des Crêtes, au golfe de Bosquet dans les Landes. Une fois pris dans les chênes, il se fiait aux murets, aux dalles émergées, aux arbres morts, aux buissons de prunelier. Il portait deux ou trois baies à la bouche. L'âpre odeur en persisterait jusqu'au soir, lorsqu'il avait longtemps parcouru creux et pentes, comme prisonnier d'une longue houle. Il montait lentement vers le sommet de la Brogne. Le roc Traoukat, dôme où la mousse enveloppe les troncs et les murets. Là-haut, il trouverait deux cacelles vis-à-vis, toutes proches. Selon le vent, il s'assoirait sur le seuil de l'une, face à l'ouverture de l'autre. Il souriait volonté de cette situation, mais préférait, somme toute, trouver la compagnie des visages au café ou au détour d'un chemin. Les brebis restaient groupées, avançant de front autour des deux cabanes. L'une d'elles venait parfois arracher une touffe sous ses genoux. C'est alors qu'il se demandait si l'éternel présent avait un sens, ou du moins cette impression d'être toujours sur une ligne de front, comme ces brebis qui, tête contre tête, coupait l'herbe au ras de la terre. Du moins l'homme prenait-il un peu de recul, une mince contemplation qui empêchait les choses de l'aveugler. Une chambre orangée se formait sous les branches, les rochers ressemblaient à des ours partis dans un long sommeil rancunier, les batailles de mouches dans la lumière faisaient leur part à l'imprévu et à la fantaisie. Campriel surprenait de temps à autre l'effluve de la terre qui le tenaillait particulièrement comme une odeur de sommeil et de fontaine malheureusement indéfinissable. Tel le goût du pain ouvert par le milieu du jour de sa cuisson. Les souvenirs bien sûr s'installaient. L'enfance s'élançait vers lui avec des bras nerveux. Le futur lui tendait une percée, mais l'espace clair sous les chênes le reprenait aussitôt et doucement, avec tendresse. Il attendait l'arrivée d'ombres plus longues dans la compagnie des oiseaux répondant aux oiseaux, des fourmis, des grillons, du bonheur des brebis et de son propre sang qui s'impatientait au bout des doigts. Et levé, sans s'en apercevoir, il reprenait vers le bas, se retournait vers les caselles, bergères, aïeules, sous leur cape. Il amenait dans son pas le troupeau, avisait l'orifice d'une higue qui lui rappelait que la Brogne est une réserve infinie de gouffres. Il était alors particulièrement sensible à la lumière. Il existe un équilibre idéal de clarté entre les feuilles de chêne et le ciel, toujours un peu marqué par des branches et par l'autant plus nécessaire, attirant entre le jaune clair de l'herbe et le blanc violent des murets, les traits rouges des chemins et l'empire solaire d'un éclat abstrait à midi et alourdi de rouge vers le soir. Vous voyez, on retrouve toujours le peintre qu'est Gilles Lade.
Oui.
Campriel allait, les tempes harcelées dans l'effervescence légère de la sueur, guettant les moindres bruits sur le fond de cette indifférence terrible des fins d'après-midi si proche du découragement. Certains jours, il descendait vers le lac de Lourgues, une eau mince dans un roc évidé, gagné par une végétation bouillonnante, au pli d'un vallon difficilement accessible. Le plus souvent, il faisait une halte près d'un chêne géant qu'il avait appelé Brantite, du nom d'un lieu-dit de la Brogne. Il occupait le centre d'une clairière et attirait curieusement les oiseaux de toutes sortes, corneilles, pivert, pinson, tourterelles, les uns fuyant les autres. Les sangliers y laissaient tout autour des virgules de terre écorchées que le chien reniflait, le poil hérissé. Quelques branches mortes dépassaient le haut des frondaisons, souvenir d'une sécheresse particulièrement tenace. À leur pointe, un pinson était souvent installé. Au printemps, il répétait, exalté, sa longue trille, en réponse à un concurrent juché à quelques centaines de mètres, trille où se mêlaient allégresse et autorité, suggérant que dans le jabot rouge, plus qu'une mélodie, se formait un chant d'orgueil. La fatigue portait Cambrielle. Sa marche effaçait fourrés, clairières, ravins. Le soleil entrait en terre dans son dos au moment où il débouchait sur le plateau. Son chien répondait par des crochets d'allégresse à la longue foulée du maître. De brusques risées de fraîcheur se propageaient dans l'herbe rêche. Cambrielle avait bientôt atteint la piste principale dont la lumière rasante, à ce moment-là, mettait en valeur le relief et les contrastes. Les moutons étaient bientôt autour de lui. Il sentait sa liberté grandir dans le crépuscule à l'usage de l'air qui se délitait sans mesure dans sa poitrine. L'odeur des herbes, des fleurs, des pierres, du suin prenait une acuité presque pénible. À l'horizon, toutes les ondulations disparaissaient sous un madrier de brume. C'était le moment de mesurer, de se mesurer, de ne pas craindre l'idée de soi. Les reins tassés par le choc des pierres, les yeux minces fixés au plus loin. Alors Cambrielle se laissait immobiliser par ce défi, comme s'il allait déboucher sur un à-pic et faire le dernier pas dans l'air vif. Il ne dévirait pas, puisqu'il était depuis toujours dans cette voie, mais il fallait refermer le point, résumer à rien ces milliers de jours. Un surcroît de solitude, les premiers signes des oiseaux nocturnes, quelques étoiles, le relier au moment qu'il faisait véritablement sien, moment où il avait décidé d'aller son chemin sans rien céder de lui et qu'il avait amené ici, étonné d'une telle solitude au milieu de tant de beauté mobile et vive, comme un lac relié à la mer, ce fond de ciel rouge, ces allées de chèvrefeuilles, ce silence amical et sans limite dans lequel prenait place la vigilance affectueuse de ses brebis, et plus loin, le timbre intact des hommes et des femmes, avec qui il avait, de loin en loin, parlé de cœur à cœur, mais qu'il avait choisi de ne pas suivre pour cette vie simple et reculée, simple à se confondre avec le vent. La nuit était bien là. Sur le pas de la porte revenaient alors des images et des souvenirs, des sentiers passés, des sentiers possibles, l'imprévu fulgurant et joyeux, comme ces moineaux qui font un instant les colibris sur un épi de blé. Et lorsque lui, Cambrielle, n'aurait plus l'allégresse matinale, l'endurance, l'âpreté, le manche de hache bien en main, lorsqu'il ne pourrait plus lancer l'appel sonore à ses moutons et à son chien, lorsqu'il ne serait plus digne des pentes, des parcours, lorsqu'il ne contemplerait plus avec passion la sinuosité des crêtes, l'agencement singulier des murets, la poussée des premières sèves, la dérive des fumées des cobuages. Il partirait du jour au lendemain, à la surprise et, il l'espérait, dans l'amitié de celui qui lui avait confié une demi-heure, une demeure ici, sous le couvert des chênes, à toucher du regard le ciel où dérive la plainte des buses, mais où certains matins, dans la bonne orientation du bleu, les choses et leurs contours sont mystérieusement recréés. Mais c'est ainsi que je referme ces pages poétiques et fabuleuses du livre de Gilles Lade dans le chemin de Buis. Et nous allons quitter ce gentil Cambriel très solitaire et qui nous a fait partager des moments très appréciables, très colorés, très sonores, justement de ce Cos de la Brogne.
Merci beaucoup Chantal et à bientôt pour une prochaine émission.
À bientôt à vous tous et bonne journée.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.